Europe 1. Bienvenue dans les interviews de Cœur de l'Histoire, je suis Virginie Giraud. Les tentacules du crime organisé font le tour de la planète. Mais le cœur de la pieuvre a commencé à battre en Italie. Au XIXe siècle, la mafia voit le jour sous le soleil de Sicile. Pourquoi le berceau de ces organisations internationales du crime est-il italien? Pour le savoir, j'ai le plaisir de recevoir Jacques de Saint-Victor, écrivain et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la mafia. Bonjour Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
Qu'est-ce qui distingue la mafia d'autres formes de crime organisé?
Alors la mafia, c'est ce qu'on pourrait appeler une aristocratie du crime organisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations criminelles. Ça va de la modeste bande de banlieue jusqu'aux gangs. Maintenant, on a même des méga-gangs en Amérique latine. Et la mafia, c'est un peu ce qu'on pourrait dire l'organisation la plus puissante, parce que on ne peut parler vraiment de mafia que lorsque ces organisations criminelles ont des liens extrêmement étroits avec leur environnement politique, économique, sportif, enfin tout le tissu social qu'elles parviennent à corrompre. Donc les mafias, c'est vraiment la structure la plus puissante dans le monde du crime organisé.
Il y a un code de l'honneur dans la mafia ou c'est un fantasme véhiculé par le cinéma?
Oui, c'est un grand fantasme véhiculé par le cinéma. Ce qu'il y a, c'est que, évidemment, pour réussir à fédérer un groupe, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles que l'on ne peut pas enfreindre. Donc c'est peut-être ça qu'on peut appeler le code de l'honneur, mais c'est un code de l'honneur toujours évidemment pervers et qui n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, notamment les grandes actions, la belle chevalerie ou tout ça, c'est de la pacotille, si vous voulez. La réalité, c'est que ce sont des organisations sordides tournées uniquement et essentiellement vers le profit.
Est-ce qu'on peut dire que le film Le Parrain de Coppola, qu'on a tous plus ou moins en tête, serait réaliste avec le chef de famille, le patriarche?
Non, alors le film de Coppola, qui est très beau sur le plan cinématographique et qui est d'ailleurs inspiré d'un très beau roman lui aussi, de Mario Puzo, c'est pas du tout comme ça que fonctionne une organisation mafieuse, surtout aux États-Unis. Puisqu'en réalité, ce qu'a voulu faire Coppola, parce que sinon ça n'aurait pas été dramatique, c'est de faire croire que cette mafia, c'est une famille au sens de lien de sang. En réalité, les familles, le nom que l'on donne aux familles, notamment à New York, on dit il y a 5 familles qui contrôlent New York, mais le mot famille doit être en fait traduit par le mot entreprise. Ce ne sont pas des familles de sang. Et donc c'est ce qui rend le film Le Parrain totalement faux, même s'il reste un très très beau film évidemment.
Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux la définition de la mafia et qu'on a détruit quelques clichés, la fameuse chevalerie de la mafia,
beaucoup,
mais déjà celui-là, vous voyez, moi je l'avais déjà en tête. Comment apparaît la mafia? Où est-ce qu'elle naît?
Alors la mafia apparaît dans le sud de l'Italie au début du 19e siècle pour des raisons qui sont à la fois économiques et politiques. Et c'est pour cette raison double qu'elle apparaît dans cette zone particulièrement marquée à la fois par des changements économiques extrêmement brutaux, le passage d'un monde très féodal, car le sud de l'Italie est beaucoup plus encore marqué que la France de l'époque par la féodalité, et en même temps des révolutions politiques. On va l'expliquer, j'imagine, les deux, mais c'est cette double raison qui explique qu'elle apparaît dans cette zone, et non pas ce qu'on a souvent cru dans les années 1970 avec une anthropologie très méridionaliste, parce qu'il y aurait le poids de la famille, le poids des traditions, enfin tout un ensemble de choses qui ont pu jouer, si vous voulez, à la marge, mais qui ne sont pas les raisons profondes de la naissance de ces organisations criminelles.
Et oui, parce que l'Italie au XIXe siècle, c'est un contexte politique
Absolument. Très
particulier, c'est le Risorgimento. Vous pouvez nous dire en un mot de quoi il s'agit?
Oui, le Risorgimento, en fait, surgit à la suite de l'occupation par les troupes françaises de Napoléon de l'Italie. Et une fois qu'il y a le congrès de Vienne et que l'Italie revient à la fois à ses petites principautés dans le nord et au royaume de Naples, dans le royaume des Bourbons, dans le sud, eh bien, beaucoup de libéraux, mais ce terme devrait être d'ailleurs précisé, ont l'ambition de revenir, de recréer une Italie unifiée qu'avait plus ou moins tenté de mettre en place Napoléon Ier. Et du coup, ce courant libéral s'oppose à la monarchie des Bourbons. Et dans le cadre de cette opposition entre les élites libérales, souvent d'ailleurs des élites très aristocratiques et qui possèdent d'extrêmement grands domaines, notamment en Sicile. La Sicile, tout le monde le connaît avec Lampedusa, c'est la terre des barons. Et ces grandes familles, eh bien, elles s'appuient en réalité sur un monde obscur, le monde du crime, qu'elles vont au fond organiser et par la suite qu'elles ne vont pas complètement maîtriser. Et c'est ce retournement qui va expliquer la naissance de ces organisations criminelles. Ce sont des structures criminelles au départ utilisées par les barons à des fins, disons, libérales d'indépendance vis-à-vis de la monarchie des Bourbons et qui, par la suite, vont devenir tellement puissantes qu'elles vont se retourner contre ces mêmes barons.
Ça fait penser un peu au film Le Guépard, finalement, la fin de l'aristocratie, un film avec Alain Delon
Absolument.
Et Claudia Cardinal, sublime. Oui. Donc, c'est ce contexte si particulier, économique, d'un monde en mouvement brutal, finalement, qui devient le terreau fertile de la naissance de la mafia.
Oui, absolument. Et le film Le Guépard, d'ailleurs, explique très très bien, sans que le mot mafia ne soit jamais prononcé, car à l'époque, il était presque impossible d'utiliser ce terme à la fois localement et même dans le cinéma, puisqu'on commence vraiment à parler de la mafia au cinéma dans les années 70, avec justement Le Parrain.
Alors justement, ces mafieux, c'est une constellation. Ils viennent de quel milieu social? Parce que j'imagine que finalement, on balaye assez large entre le boss qui est au sommet de la pyramide de la chaîne alimentaire et les, enfin, je sais pas comment on appelle, les petits mafieux qui sont en bas de l'échelle.
Les picciotti, on dit, oui. Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est le plus intéressant dans l'histoire de la naissance de la mafia. La mafia ne naît pas, contrairement à l'image que l'on a souvent, dans un monde populaire. Elle naît au contraire dans un monde bourgeois. Alors, il faut bien distinguer évidemment ce que l'on appelait au 19e siècle la haute mafia et la basse mafia. Évidemment, la basse mafia, c'est des hommes de main qu'on prend évidemment dans les classes, disons, les plus modestes de la société. Mais la haute mafia, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de la naissance de ces grandes sociétés secrètes, elle naît dans la bourgeoisie, au moment justement où s'opère ce passage entre l'économie féodale et l'économie capitaliste. C'est-à-dire que, en réalité, c'est ces grands bourgeois qui commencent à comprendre qu'ils vont pouvoir prendre la place des aristocrates, eh bien, se mettent à la tête de ces sociétés secrètes et sont à l'origine d'un processus qu'un baron toscan, qui est vraiment le meilleur analyste de la naissance de la mafia, qui s'appelle le baron Franchetti, a appelé la démocratisation de la violence. C'est-à-dire que la violence, qui était dans le monde féodal un monopole des seigneurs et donc des grands propriétaires terriens, va se démocratiser et va désormais être contrôlée par ces nouvelles bourgeoisies sans scrupules, qui constituent donc les premières structures qui vont donner naissance aux organisations mafieuses.
Mais alors, est-ce qu'il y a un lien au 19e siècle entre la franc-maçonnerie, les carbonari et la mafia ?
Absolument. C'est-à-dire que les sociétés secrètes libérales, comme par exemple la franc-maçonnerie ou les carbonari, parce que c'est un peu différent, mais c'est, disons, le même processus, c'est réussir dans des sociétés secrètes à essayer de combattre la monarchie des Bourbons, eh bien, elles vont se trouver infiltrées et détournées de leur orientation, de leur but, soit but philosophique pour la franc-maçonnerie, soit but politique pour les carbonari, à des fins purement de prédation. Car on comprend que on peut très facilement contourner le système libéral nouveau qui se met en place en créant des sociétés secrètes qui peuvent être beaucoup plus puissante pour corrompre les règles classiques du marché. Car si vous êtes derrière et tout le monde s'entend dans l'adjudicataire, le notaire, tous les participants et les personnes qui jouent un rôle dans la chaîne économique, eh bien, si vous contrôlez toute cette chaîne en secret, eh bien, vous pouvez parfaitement contrôler le libre marché, en réalité, et vous le détournez complètement de son objectif.
Alors, on peut revenir un peu sur ce système économique de la fin du 19e siècle en Italie. En quoi il se modernise brutalement ?
Alors, c'est plutôt au début du 19e, en réalité, qu'il y a un passage entre ce monde féodal et une économie capitaliste qui apparaît très rapidement dès que les troupes napoléoniennes abolissent le système féodal. C'est beaucoup plus brutal qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, quand on abolit le 4 août 1789 la féodalité, en réalité, depuis le 13e siècle, dans la plupart des régions françaises, elle était déjà morte. Alors qu'en Sicile et même dans tout le sud de l'Italie, la féodalité est encore très puissante. Donc les barons contrôlaient complètement les terres. Et du jour au lendemain, en 1806, dans la partie continentale du Royaume de Naples et en 1812 en Sicile, on abolit du jour au lendemain ce système féodal. Alors qu'est-ce que ça provoque ? Je résume parce que c'est évidemment un processus très complexe. Ça fait un peu la même chose que ce qui s'est passé en Russie au moment de la chute du mur. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une économie libérale qui s'implante sur un monde qui n'est pas du tout habitué à cette économie libérale. Il n'y a pas les structures bancaires, il n'y a pas les structures en termes de titres de propriété, il n'y a pas tout ce qui faisait dans des pays comme l'Angleterre ou la France le passage lent et facile d'une économie féodale à une économie capitaliste, eh bien ça n'existe pas. Du coup, il y a un vide. Et donc, ce vide crée un appel d'air criminel parce que, eh bien, ceux qui sont les plus brutaux, ceux qui sont les plus puissants, qui n'hésitent pas à utiliser les mécanismes les plus criminels, ces entrepreneurs de la violence, comme on va les appeler, eh bien, ils peuvent s'implanter très facilement parce que la fin de la féodalité a créé, notamment, par exemple, la vente de très grands domaines qui étaient protégés par le système féodal. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu technique juridiquement parlant, mais qui font que quand il n'y a plus ce système féodal, eh bien, ces grands domaines sont à l'encan. Il faut les vendre parce que plus personne, le droit ne les protège plus. Et donc, ça va créer, si vous voulez, un immense marché des terres. Et sur ce marché des terres, eh bien, va prospérer des organisations criminelles naissantes qui vont s'inspirer des loges maçonniques et des carbonari du mouvement libéral pour créer des sociétés secrètes. Car il n'y a pas de mafia sans cette notion de société secrète. C'est ce qui fait que dans certaines régions, je pense par exemple à la Corse, où il y a des organisations criminelles, mais il n'y a pas eu la démonstration faite dans les archives qu'il y ait vraiment de sociétés secrètes. Donc, on peut parler de phénomène mafieux, mais pas nécessairement de mafia.
Si j'étais un petit peu provocatrice, je pourrais dire que la mafia, c'est un petit peu des capitalistes sauvages. On pourrait résumer les choses comme ça?
Oui, absolument. La différence entre le capitaliste, normalement, c'est ce qu'on appelle, selon la définition de Max Weber, de l'entrepreneur, vers une destruction créatrice, donc créatrice de richesse. Alors que la mafia, c'est ce qu'on appelle la prédation pure et dure. C'est-à-dire que c'est une création de richesse que s'accaparent les mafieux uniquement pour eux-mêmes. Et donc, c'est quand même différent du capitalisme. Mais c'est vrai que le capitalisme libéral permet à cette mafia de prospérer.
Comment est perçue la mafia par les gens à l'époque, au 19e siècle, cette première mafia?
Oui, alors un petit peu comme elle l'est encore aujourd'hui dans certaines régions, hein, en Calabre encore et dans certaines régions de la Campanie. C'est-à-dire que les gens en ont à la fois peur et puis il y a une telle défiance de l'État qu'on se dit qu'après tout, pourquoi pas la mafia? Et on peut dire que la mafia, et c'est là-dessus qu'elle prospère, crée ce qu'on appelle du consensus social. Parce que elle opère sur le vide ou, disons, sur l'absence de l'État ou l'échec de l'État. Il y a eu un très grand échec de l'État libéral au moment du Risorgimento. Et cela fait que les populations locales se disent, après tout, le boss, lui au moins, il me donne du travail. Parfois même, il m'apporte une aide. Donc, il joue un rôle de protection sociale, ce que l'État libéral ne faisait pas. Et donc, on l'a bien vu au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire de la mafia. Quand l'État est fort, paradoxalement, la mafia est faible. Et c'est quand l'État s'affaiblit que la mafia prospère. Et donc, à la fois au 19e siècle comme aujourd'hui, la mafia est assez puissante.
Vous avez commencé à en dire un mot tout à l'heure. La mafia, pour être puissante, doit avoir un maillage social assez étroit dans différents domaines de la société. Comment se rapproche-t-elle notamment du politique? Puisqu'on a le sentiment que c'est totalement antinomique, la mafia et la politique. Enfin, disons qu'on est censé avoir une probité au-dessus de tout quand on est un politique.
Oui, bien sûr. Disons que la politique, notamment à ses origines, apparaît dans un univers, je le disais, très troublé. Et donc, les politiques eux-mêmes ont eu besoin par moment de s'appuyer sur des groupes de pression et les groupes criminels font partie de ces groupes de pression. Donc au départ, il y a eu, si vous voulez, un lien peut-être de dépendance, c'est-à-dire que les mafias c'était simplement des hommes de main de ces groupes politiques importants. Mais petit à petit, ils sont devenus de plus en plus puissants et c'est là où il y a quelque chose de terrible mais qu'il faut dire, c'est que le processus de démocratisation qui est apparu en Italie plus tardivement qu'en France à partir des années 1880 et surtout 1912, eh bien, ce processus de démocratisation va permettre aux mafias de s'insérer complètement dans le monde politique. Elles vont d'abord occuper des postes dans les conseils généraux, régionaux, enfin, ce qu'on appelait comme ça à l'époque.
Mais ils sont élus pour arriver là?
Élus, bien sûr. Mais puisqu'ils génèrent du consensus social, comme je le disais, eh bien, on va voter pour le boss. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, c'est-à-dire le moment où, justement, ces mafias se sont tellement bien insérées dans le système social qu'elles elles sont respectées. Et ça peut arriver très souvent que, encore aujourd'hui, vous allez dans le sud de l'Italie et vous demandez à des jeunes gens qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, et vous avez des jeunes filles qui vous répondent, ça m'est arrivé donc, dans un lycée, femme de boss.
Parce que... C'est une bonne situation.
Mais oui, c'est la personnalité un peu respectée et riche de la région. Et donc, ce processus d'infiltration du monde politique a prospéré. Il a été bloqué plus ou moins, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire, par le fascisme. Et il reprend son essor avec la guerre froide. Parce que la mafia est la principale arme qu'utilisent dans le sud de l'Italie les forces en place pour combattre les communistes.
Je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous disiez, quand le pouvoir est fort, le pouvoir de la mafia diminue. Et ça a été le cas notamment à l'époque de Mussolini, pendant le fascisme italien. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, est-ce que le fascisme italien est plus intègre que les autres régimes italiens? Vous voyez, je ne voudrais pas qu'on fasse un raccourci
comme
ça.
Oui, absolument, vous avez parfaitement raison. Le meilleur exemple, si vous voulez, de la diminution du pouvoir de la mafia, c'est pas cette époque du fascisme, j'y reviendrai, c'est le moment de la grande force de l'État-providence dans les années 60-70. Surtout les années 60. C'est ce moment-là où on a vu un certain nombre d'organisations mafieuses, notamment c'était très frappant à la fin des années 60, des organisations mafieuses qui devenaient très peu attirante pour les gens parce que l'État était lui-même très fort et très redistributif. Alors, la question du fascisme est assez complexe mais a été très bien étudiée. Aujourd'hui, il est vrai que le fascisme a d'abord combattu la mafia jusqu'en 1929 parce que il s'est attaqué à ce qu'on a appelé justement la basse mafia, c'est-à-dire les petits groupes criminels, et beaucoup de ces chefs de petits clans criminels ont dû immigrer aux États-Unis, et c'est d'ailleurs là qu'ils ont reconstitué de nouvelles familles, je pense à Joe Bonanno ou autres, qui sont devenus des très grands mafieux américains. Mais en réalité, en 1929, quand le préfet Maury, qui est chargé par Mussolini d'attaquer la mafia, commence à taper dans ce qu'on appelle la haute mafia, c'est-à-dire des membres des très grandes familles siciliennes qui sont des chefs cachés, évidemment, mais de familles mafieuses, là, tout d'un coup, tout s'arrête. Mussolini renvoie le préfet Maury, et à ce moment-là, dans les années 30, on voit se reconstituer, sous le couvert du fascisme, la puissance de la mafia. Donc en réalité, le fascisme n'a joué qu'un rôle très ambigu vis-à-vis de la mafia. C'est plutôt quand un État vraiment distributif, comme l'a été l'État italien dans les années 60, a joué un rôle, avec un rôle d'ailleurs ambigu, parce qu'il y avait beaucoup d'assistanat, hélas, et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs la chute de cette logique de l'État-providence en Italie. Et à partir des années 80, 70-80, c'est sur l'échec de cet État-providence assistentiel, comme on dit en italien, qu'on va voir à nouveau les mafias prospérer. Parallèlement à ça, il est vrai aussi que l'explosion du trafic de drogue va donner à ces mafias des richesses tellement importante que, évidemment, tout va changer à ce moment-là.
Donc, le parrain favorise la redistribution sociale, ce qui fait partie de son succès auprès du peuple, si je comprends bien.
D'une certaine manière, indéniablement, quand il n'y a plus beaucoup de postes, par exemple, offerts par l'administration, eh bien, vous avez l'organisation du boss qui vous donne du travail. Alors, c'est un travail extrêmement peu... honnête, puisqu'il s'agit de faire, je sais pas, trafiquant de drogue ou autre, mais au moins vous avez un travail, et c'est ce qui fait que, l'organisation criminelle jouit d'un certain consensus social.
C'est exactement ce qu'on m'a expliqué lors de mes voyages à Naples,
mais
d'ailleurs.
Oui, hélas.
Alors, pour lutter contre la mafia, il faut un système de justice qui fonctionne, qui ne soit pas corrompu. Est-ce qu'il y a eu, à un moment de l'histoire, une justice qui était en collusion avec la mafia?
Alors, en réalité, quand on regarde vraiment les grands procès criminels qui ont eu lieu au 19e et au début du 20e siècle, la justice n'est pas tellement corrompue. C'est pas tellement ça. Mais c'est que le droit est inadapté au crime organisé. Le droit libéral qui est né après la Révolution française, et les Italiens se sont inspirés de notre droit post-révolutionnaire, c'est un droit qui est totalement individualiste. Et donc qui essaye de voir qu'est-ce que chaque acteur a véritablement joué comme rôle, et on a ce qu'on appelle l'individualisation de la peine. Face à des organisations criminelles qui se répartissent les rôles, qui d'ailleurs peuvent utiliser les témoins, qui mentent, etc., la justice est dépourvue. Et il a fallu attendre les années 1980 pour que l'Italie puisse combattre efficacement la mafia en se dotant justement de règles spécifiques concernant les associations mafieuses. Chose que d'ailleurs nous n'avons toujours pas en France. Et c'est ce qui va expliquer que la justice a énormément échoué jusqu'au grand procès, les fameux maxi-procès avec le juge Falcone et le juge Borsalino des années 1980.
Alors la mafia s'est exportée en dehors de l'Italie, parce que quand on parle mafia, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est Al Capone. Comment s'est fait cette translation de la mafia vers les États-Unis ?
Absolument, elle s'est faite tout simplement, disons, vers la fin du 19e siècle, où quand il y a eu énormément d'immigration italienne, plus d'un million de Siciliens partent aux États-Unis dans les années 1890-1900, eh bien, les mafieux ont eux-mêmes suivi le mouvement. Si vous voulez, ils ont constitué des sortes de filiales. Au départ, c'était vraiment des filiales de clans mafieux. On en suit parfois certains. Je travaillais sur un clan à la Nouvelle-Orléans qui est la filiale et porte le même nom que le clan d'une famille de Montréal à côté de Palerme. Et donc, au départ, ce sont des simples dépendances. Et puis, vous savez ce que c'est ? Ben, au fur et à mesure des générations, Al Capone, par exemple, ben, c'est une deuxième génération. Donc, ça devient des mafias autochtones qui ont conservé, et c'est ce qui va faire leur puissance, leur mode de fonctionnement. Et c'est ça qui va faire qu'ils sont beaucoup plus puissants que, par exemple, les gangs polonais, les gangs juifs ou les gangs d'autres nationalités qui opèrent aux États-Unis. C'est parce qu'ils ont la structure et la logique de société secrète de ces mafias qui viennent d'Italie.
Merci Jacques de Saint-Victor. Grâce à vous, on comprend beaucoup mieux la mafia, qui est moins effrayante du coup.
Je sais pas. Non, je pense qu'elle doit rester quand même très effrayante.
Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur la mafia, je conseille votre livre « Un pouvoir invisible, les mafias et la société démocratique » paru aux éditions Gallimard. « Au cœur de l'histoire » est un podcast produit par Europe 1 Studio, à la production Nathan Laporte et Caroline Garnier. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Marie Corpet et Nathan Laporte. Et moi, je vous retrouve tous les jours de la semaine en podcast sur votre plateforme préférée, qui est probablement le site d'Europe 1 d'ailleurs, et à l'antenne tous les week-ends à 15h. À très bientôt.